Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Sarah a toujours voulu devenir mère et c'est assez vite après son mariage qu'elle arrête la pilule. 8 mois plus tard, elle vit sa première grossesse et le bonheur complet malgré quelques maux, notamment des calculs rénaux qui ont accéléré son accouchement. Elle souhaite rapidement faire un deuxième bébé, mais à quelques semaines, sa grossesse s'arrête et cette fausse couche est annoncée avec beaucoup de distance par son gynécologue. Sarah découvre alors que la fausse couche est plus fréquente que ce qu'elle pensait, quand ses proches lui disent qu'elles sont aussi passées par là. Des confidences qui la déculpabilisent et lui permettent de se remettre dans son projet bébé. Sarah retombe rapidement enceinte et se dit que la fausse couche est derrière elle. Mais quelques semaines après le test positif, elle voit encore des saignements apparaître. Direction les urgences de sa maternité pour s'assurer que tout va bien, sans savoir qu'elle s'apprête à vivre une longue journée très éprouvante. Sur place, personne ne s'intéresse à son cas. Elle poireaute plus de 12 heures sur sa chaise en salle d'attente avec des saignements qui s'intensifient. Et c'est lorsqu'elle prend enfin son courage à deux mains pour aller demander une serviette hygiénique qu'une sage-femme va finir d'achever son calvaire avec une phrase des plus violentes. « Madame, ici aux urgences, on s'occupe des femmes qui portent la vie. Vous, vous portez la mort. » Dans cet épisode, Sarah nous raconte l'arrivée de son premier bébé, la découverte de sa première fausse couche, la journée horrible de sa deuxième fausse couche et cette prise en charge déplorable à la maternité. Elle décrit aussi le trauma que cette phrase choquante lui a laissé, comment elle a vécu sa grossesse d'après et le lien particulier qu'elle a créé avec son deuxième garçon, son bébé arc-en-ciel. Bonne écoute.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman de 2 enfants.
C'est ça.
Quel âge ils ont ?
Alors Gabriel a 4 ans et demi et Joseph a 19 mois.
D'accord. Alors on va revenir au tout début avant que tu deviennes mère. Quel regard toi tu portais sur la maternité étant plus jeune ? Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou pas du tout ?
Depuis très jeune, je savais que je voulais des enfants. J'ai toujours su que j'allais devenir maman. Même quand j'étais adolescente, je savais que c'était quelque chose auquel je voulais devenir maman. Après, j'avais pas d'âge spécifique dans ma tête. Je me suis pas dit qu'il fallait que je sois maman à 20 ans, que je sois maman à 25 ans. Je m'étais rien fixé, mais par contre, c'était quelque chose... Je savais que j'allais devenir maman.
Ouais.
Ouais, tout de suite, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai douté une fois. Vraiment, c'était... C'est toujours quelque chose que j'ai ressenti.
Et alors, à quel moment est venu le sujet au sein de ton couple ?
Oh, tout de suite.
Ouais.
Tout de suite. On s'est mariés au mois de juin et je suis tombée enceinte au mois de mars d'après.
D'accord.
Et donc, évidemment, après le mariage, on se demande tout de suite est-ce que c'est un projet commun qu'on a tout de suite ou est-ce que... On attend un peu, voyage, tout ça. Tout de suite, on s'est dit, non, bah, écoute, ok.
On y va.
On peut essayer, on peut envisager sans se mettre de pression quelconque, mais pourquoi pas juste essayer tout de suite.
Ouais.
Voilà, donc c'est venu au bout de 8 mois à peu près, 8-9 mois
D'accord.
après le mariage. J'ai pas pris de contraception du coup. Et c'est venu naturellement,
ouais.
tout seul.
Donc au bout de 8 mois, toi, est-ce que ça a été un petit peu long ou...
Oui.
Ouais.
Oui, parce que moi, je suis hyper cérébrale, donc c'est vrai que tous les mois, je me disais, est-ce que c'est ce mois-ci ? Et je calculais beaucoup, tu sais, la date d'ovulation, la date de règles, savoir si on était dans les temps, si on n'était plus...
Ouais.
La veille de mes règles, je me disais souvent, est-ce que demain, je vais avoir mes règles ? Ou est-ce que demain je vais avoir un retard ? Retard, est-ce que veut dire grossesse ? Et c'est vrai que c'est quelque chose dans les premiers mois qui m'a beaucoup animée, si tu veux. Et après, mon mari m'a clairement dit « plus tu lâcheras la pression sur le sujet, moins tu y penseras plutôt, plus ça va arriver plus vite que tu ne le penses. Donc, pense complètement à autre chose. Mmh. Nous, on est amoureux et puis on fait des câlins. Et puis, si ça arrive, c'est cool et ça arrivera. De toute façon, lui, il n'avait aucun doute.
Ouais.
Et finalement, en fait, j'ai commencé progressivement à lâcher un peu... la pression sur le sujet, et effectivement, à partir du moment où on a eu cette discussion, je dirais 2 mois après, je suis tombée enceinte. Mmh. Donc effectivement, je pense que vraiment mon cerveau jouait beaucoup aussi sur mon corps à ce moment-là de ma vie.
Alors comment t'as vécu cette nouvelle
Cette première grossesse, c'était génial. Vraiment, l'annonce, du coup, je suis pas du tout rentrée dans tout ce qu'on peut voir dans les annonces aux conjoints. Moi, mon mari était en train de sortir les courses dans le parking et j'ai couru au parking et je lui ai dit « je suis enceinte ». Vraiment, j'ai pas voulu lui faire de surprise quelconque, tu sais, de vidéo ou tout ce qu'on peut voir. Mm. Non, j'avais juste besoin tout de suite de pouvoir lui dire, de pouvoir lui annoncer la nouvelle. Et finalement, la grossesse était très bien. On était ok parce qu'en fait c'était une discussion qu'on avait eue, un projet qu'on avait en commun, donc on était très contents de pouvoir accueillir la nouvelle. Et donc très vite on s'est dit aussi qu'il fallait déménager parce qu'on vivait dans un petit studio après le mariage, donc mais pour autant on s'est pas mis la pression, on s'est dit qu'on avait 9 mois à venir devant nous pour pouvoir en fait avoir un autre appartement pour accueillir le bébé. Et voilà. Ça, c'est très, très bonne nouvelle.
Ouais. Ouais. Comment s'est passée la grossesse ?
Alors, très bonne grossesse, mais à partir de 6 mois de grossesse, comme pour les autres, j'ai eu une très, très grosse dilatation au rein droit qui a fait que donc, j'ai eu des calculs. Mmh. Et donc, ça m'a fait vraiment très, très mal.
Ah, ouais,
ça fait vraiment très mal parce qu'au début, en fait, c'est surtout que tu as l'impression que ce sont des contractions qui viennent par le dos. Donc, tu te dis, non, je ne suis pas prête à être en travail, je suis à 6 mois de grossesse. Et donc, je suis rentrée à l'hôpital très rapidement, je crois qu'on était à 32 semaines, un truc comme ça. Et donc là, on m'a expliqué que j'avais quand même beaucoup de calculs, que le rein droit était très dilaté. Donc, à part soit la pose d'une sonde JJ, donc sous opération, c'était envisageable, soit il fallait que je prenne sur moi, jusqu'à la fin de la grossesse. Donc moi, je ne me voyais pas du tout me faire opérer pendant que j'étais enceinte. Je trouvais ça un peu particulier, me faire opérer.
Choix difficile, là, quand même. Hein.
Ouais. Donc non, je me suis dit, je prends sur moi. S'il n'y a pas de danger pour bébé et que juste, ça sera de la douleur pour maman, bon, je prends sur moi et on va aller jusqu'au bout et ça va aller. Donc bon, non, c'est pas allé, j'ai accouché très tôt, j'ai accouché à 37 semaines et de douleur finalement parce que j'avais tellement mal qu'il fallait que... Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué après, que mon corps en fait tenait plus la douleur et que j'ai contracté et du coup j'ai dilaté. Et donc j'ai accouché très rapidement et très surprise hein, parce que quand je suis arrivée à la maternité, je pensais que j'avais du coup encore des contractions dans le dos parce que j'avais vraiment très très mal. Et elle m'a dit, non, vous êtes dilatée à 4, on passe en salle de travail et c'est parti.
Ah bon? T'avais un projet de naissance, toi, une façon
pas
de...
Du tout. Non, pas du tout, parce que donc, moi, j'ai accouché le 20 décembre et j'avais mon premier cours d'accouchement le 21 décembre.
Ah oui, d'accord.
De préparation à l'accouchement. Donc, je savais pas du tout, j'avais rien préparé, j'avais rien prévu, on n'avait pas du tout... J'aurais aimé parce que du coup, j'étais un peu... J'avais les yeux, tu sais, qui regardent un peu partout dans la salle. Je savais pas trop, tout le monde s'agitait. Mm. Je savais pas trop qui devait être là pour moi. On n'avait pas fait encore de préparation à l'accouchement. Donc, en fait, je savais pas comment ça allait se passer.
Ouais.
Donc, ça s'est passé. Difficilement, physiquement.
T'as pris la péridurale ?
Ouais, j'ai eu la péridurale au bout de 20 minutes, 25 minutes. Mm. Parce qu'en fait, j'étais déjà... Je dilatais très, très vite. Et en fait, c'est l'accouchement en lui-même qui a été très difficile. Donc, j'ai accouché d'un tout petit bébé, il faisait 2 kg, 46 cm, mais il ne voulait pas sortir. Dès que je poussais, il remontait, donc ça a été assez long. Je crois qu'il y a eu 45 minutes de poussée, et après, le gynécologue est arrivé et a dû le faire sortir à sa façon. Mais donc du coup c'était assez difficile.
Ouais, c'était quoi, c'était avec les forceps ?
Alors, j'ai eu les forceps, la ventouse, et j'ai eu 9 points d'épisio. Donc c'est vrai que sur le papier, quand tu te dis que tu as eu un bébé à 2,3 kg
ouais.
et que tu as eu tout ça en parallèle, forcément le contraste est un peu surprenant. Mais donc physiquement, j'étais un peu waouh.
Ouais. Et lui était préma du coup
Non, non. Et on a échappé, ils nous ont dit à 100 grammes de la prématurité,
d'accord.
c'était ok. Donc je suis restée quand même par contre 6 jours à la maternité.
Ouais.
Donc là, on était il y a 4 ans et demi, c'est ça, c'était il y a 4 ans et demi. On est resté 5 ou 6 jours à la maternité et on est sorti. Gabriel, il pesait 2,450 kg et en fait, tout était bien.
Ouais.
Donc voilà, notre nouvelle vie pouvait commencer et c'était très bien. Et physiquement, par contre, c'était dur, mais absorbé par le fait d'être maman, de voir un bébé qui était le mien, qui était le nôtre. Donc finalement, j'ai un peu... oublier les douleurs que je pouvais avoir, des points que je pouvais avoir aussi. Et la nouvelle vie pouvait commencer.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que tu as allaité ?
Oui, j'ai allaité pendant... Donc, Gabriel, je l'ai allaité pendant 3 mois et demi. 3 mois, pour être vraiment précise. 3 mois. Après, il est rentré en crèche. Et moi, j'ai repris le boulot.
Ouais.
Mais c'est surtout que en fait, il a... Un jour, je lui ai changé la couche. Et j'ai vu que en fait au niveau de ses fesses, il avait une espèce de très grosse boule qui commençait à pousser dans les fesses. Donc j'ai envoyé la photo au pédiatre qui m'a dit « faut vous diriger vers les urgences immédiatement ». Donc en fait, il était en train de faire un abcès de la marginale. Et donc ce qui n'était pas grave en soi, mais qui nécessitait une intervention immédiate.
D'accord.
Donc Gabriel s'est fait opérer. Mais en fait, toute cette intervention et toute cette prise en charge, moi, m'a beaucoup affectée parce qu'en fait... c'était un nourrisson, qu'il était encore, il avait 3 mois, mais ça restait quand même un très très petit bébé. Donc j'ai très mal vécu en fait le côté fil, le côté hôpital, et en fait je suis tombée sur une équipe de médecins qui m'a dit écoutez, ça et l'allaitement, l'extrême contrariété dans laquelle vous vous mettez et l'allaitement, c'est pas spécialement compatible. Donc si vous êtes en fin d'allaitement, peut-être qu'il faudrait commencer à arrêter et là, à l'hôpital, commencer peut-être l'introduction des biberons.
Mmh.
Ou si c'était un projet pour vous de continuer, mais là, votre contrariété va se ressentir et va s'impacter sur votre allaitement. Okay. C'est, moi, c'était quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc, je me suis dit, j'arrête parce que de toute façon, je pensais pas continuer l'allaitement une fois que j'allais reprendre le boulot et lui être en crèche. Donc, on s'est arrêté quand il s'est fait hospitaliser.
D'accord.
Voilà.
Donc, tout s'est bien passé après tout pour lui.
Tout s'est bien passé, oui. Il n'y a eu aucun problème avec la transition du biberon parce que moi, je tirais aussi beaucoup mon lait. Donc, il était quand même au biberon avec mon lait à l'intérieur. Et il n'y a pas eu de problème sur la transition. On est sorti de l'hôpital et puis lui est rentré en crèche. Moi, j'ai repris le travail et l'allaitement était derrière nous.
D'accord. Et alors, au bout de combien de temps vous avez voulu mettre en route le petit deuxième ?
Alors, si je devais m'écouter, moi, très très rapidement, parce que j'avais très envie d'avoir des enfants très rapprochés.
Ouais.
Après, c'est vrai qu'en discutant avec mon mari, il a quand même soulevé pas mal de petits points qui m'ont fait réfléchir. Et je me suis dit, ok, peut-être que 2 ans pour l'écart entre nos enfants, ça peut être bien pour que, en fait, par exemple, Gabriel, l'aîné, puisse avoir eu des moments avec nous, avoir grandi, comprendre que maman peut-être va avoir un autre bébé et qu'ils comprennent finalement l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc on s'est dit 2 ans c'est bien. Donc au bout de 2 ans j'ai arrêté la contraception et on s'est dit voilà, maintenant ça arrivera quand ça arrivera et on était ok avec ce temps en fait finalement entre bébé 1 et futur bébé 2.
D'accord. Et alors, au bout de combien de temps c'est...
Tout de suite.
Ouais.
Ouais. Entre le moment où j'ai arrêté la pilule et que je suis retombée enceinte, il s'est passé vraiment maximum 2 cycles. Donc, je dirais 2 mois.
Mmh.
Et je suis retombée enceinte et on était donc en vacances à la Baule. Et je me rappellerai toujours parce que du coup, j'ai fait mon test de grossesse dans le musée des biscuits Lu.
Ok.
Et c'était génial. Et j'étais trop contente. Et du coup, en fait, l'expo a pris une tournure complètement différente.
Bah oui.
Parce que tout était merveilleux pour moi. et donc, j'étais trop contente. On a fait plein de photos. Et c'était génial. Vraiment, je me suis dit, on est au mois d'août. Et finalement, l'année scolaire va reprendre avec cette nouvelle-là. Mm. Et j'étais vraiment super, super contente. Mon mari aussi. Et Gabriel, lui, du coup, avait 2 ans et demi. Et non, il avait 2 ans, pardon. Et en fait, c'était juste le timing, entre guillemets, souhaité et rêvé.
Oui, parfait.
Oui, complètement.
Et alors, comment s'est déroulée cette deuxième grossesse?
Alors, les premières semaines, classiquement, où tu fais tes... je crois que c'était une prise de sang pour confirmer. Et après, je crois que tu n'as plus de rendez-vous tout de suite. Je me souviens plus parce que... Voilà.
Oui, avant l'écho de...
Voilà, c'est ça. Et en fait, un matin, je fais pipi et je constate que je suis en train de perdre du sang. Et je comprends pas spécialement tout de suite, même si dans mon fond intérieur, je me dis que c'est pas normal que je sois en train de saigner. Donc, je dis à mon mari, je suis en train de perdre du sang. Il me dit, d'accord, on va aller aux urgences de la maternité. Dans laquelle, en fait, j'avais déjà fait mon inscription et dans laquelle j'avais accouché mon premier enfant. Donc là, on me prend en charge plutôt rapidement, je dirais. Je sais pas, peut-être en 2-3 heures, j'avais un gynéco en face de moi constatant que j'avais fait une fausse couche, que c'était vide et que donc j'avais perdu, que je n'étais plus enceinte.
Tu avais eu des douleurs ou
non,
c'était juste
non,
la perte de sang?
Non, j'ai pas eu de douleurs, j'en ai eu après.
D'accord.
J'ai eu un peu de spasme en bas du ventre après coup. Je pense que c'était la perte de sang qui a peut-être un peu réveillé des douleurs. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, en amont, il n'y a rien qui a... En y réfléchissant, rien pouvait me prédire à en faire une. Ouais. Mon corps n'avait pas mal, j'avais pas mal. La veille au soir, j'ai pas fait d'effort particulier ou quoi que ce soit. Mais le lendemain matin, aux urines du matin, j'avais du sang. Alors, au début, pas beaucoup, évidemment, mais...
Et comment tu le vis quand ce gynécologue vous annonce que c'est terminé, que c'est une fausse couche?
Alors, quand moi, je suis à la maternité, je constate beaucoup de détachement du médecin. Et je le comprends très bien parce que ça reste un médecin et que ses mots sont médicales. Et que, voilà, lui, il a beaucoup de recul et que c'est son métier de m'annoncer ça. Mais c'est vrai que en fait... Ça a duré 15 secondes et puis il est parti de la salle et c'était fini.
Ah oui, d'accord.
Sauf que mon mari et moi, on s'est retrouvés avec finalement un projet de vie qui s'est interrompu. Et donc c'est ça qui a été particulier sur le moment. C'est plutôt la distance des professionnels de santé sur la question.
Parce qu'il n'y a personne d'autre qui vient après, vous?
Non, non, j'ai eu personne qui est venu.
C'est diagnostic et rentré chez vous.
C'est, voilà, si vous avez quelques douleurs, ça sera d'espace-fond ou un peu de Doliprane. Et de toute façon, au stade où vous en étiez, et au vu de l'auscultation, pas de curetage. Donc, voilà, vous n'avez plus rien et puis vous pouvez réessayer le mois prochain. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance de ce gynéco. Moi, je me dis à ce moment-là que c'est propre à ce médecin. Je me dis que si j'avais eu quelqu'un d'autre, alors bizarrement je me dis que si j'avais eu une femme, peut-être qu'elle aurait eu des mots différents ou voilà. C'est à ce moment-là, c'est ce que je me dis, beaucoup de froideur de ce monsieur, mais peut-être que j'aurais eu plus de compassion ou de chaleur dans les mots d'une femme.
Et t'avais déjà entendu parler de la fausse couche?
Non.
T'en avais dans ton entourage qui en avait fait?
Non, parce que en fait, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être quelque chose de courant lorsque moi j'ai commencé à pouvoir le dire à droite, à gauche, à certaines de mes amies. Voilà ce qui m'est arrivé. Et en fait, certaines de mes amies m'ont dit, tu sais, moi aussi, Sarah, j'en ai fait une avant d'avoir un tel. Ou tu sais, j'ai une amie. J'ai des amis qui ont eu ça. Et en fait, progressivement, je me suis rendu compte que c'était un peu pas la normalité, parce que ça n'en est pas une, hein, mais que c'était très courant, beaucoup plus courant que ce que je ne pouvais penser. Et en fait, ça m'a réconciliée avec moi-même, parce que forcément, tu t'en veux énormément quand tu fais une fausse couche. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que... alors, je fumais pas, je buvais pas, mais en même temps, je me disais, est-ce que j'ai fait les courses? Est-ce que j'ai porté quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai porté mon fils. Et en fait, finalement, ça te réconcilie avec toi-même en te disant, ok, beaucoup de femmes, beaucoup plus que tu ne pouvais le penser, sont passées par ce que tu viens de vivre. Et finalement, tu n'y es pour rien. Mmh. Et quand j'ai compris que j'y étais pour rien, je me suis un peu réconciliée avec moi-même et aussi avec mon mari, parce que finalement, je me suis un peu recroquevillée sur moi et j'en voulais un peu à tout le monde parce que finalement, je m'en voulais à moi. Et donc voilà, quand j'ai compris que c'était quelque chose d'extrêmement courant, beaucoup plus, et voilà, c'était triste, mais il fallait passer à autre chose.
Ouais, t'as réussi à passer à autre chose assez vite.
Bah en fait, je voulais retomber enceinte très rapidement.
Ouais.
Pour pas faire un pansement, mais pour pouvoir avancer. Mmh. Et moi, c'était ma façon de me dire avancer, c'est concrétiser le projet sur lequel on s'était mis d'accord, c'était d'avoir un deuxième enfant. Donc il a fallu que la fausse couche se finisse, que je perde vraiment le sang que j'avais à perdre.
Donc ça s'est passé comment d'ailleurs? C'était quelques jours après ou tout de suite après?
Ça a duré, moi j'ai eu des pertes de sang pendant à peu près 48-72 heures.
D'accord, ok.
Donc équivalent, je dirais, à un cycle de règles, parce que moi j'ai un cycle de 48-72 heures de règles. Donc je l'ai vraiment mis dessus, finalement j'avais 48-72 heures de règles. Donc en fait, je me suis dit, bah, c'est peut-être mon cycle.
Mmh.
Et du coup, bah, peut-être que je peux reprendre là où on s'était arrêté, entre guillemets. Et donc on s'est dit, bah, on réessaye une troisième grossesse, parce que la volonté d'un bébé 2 à ce moment-là était encore plus forte qu'avant cette première fausse couche. Ça devenait encore plus évident pour nous de vouloir un deuxième enfant. Donc je suis retombée enceinte tout de suite. Vraiment, je dirais entre 1 ou 2 mois après, je suis retombée enceinte. Et là, je me suis dit, c'est génial.
Ouais.
C'est génial. Je n'ai finalement pas de problème. Et ça marche.
Mm.
Ça marche. Je suis tombée enceinte.
Et comment tu vis les premières semaines de cette grossesse? Est-ce que tu as peur que ça recommence? Ou tu te dis, non, cette fois-ci, c'est bon?
Non. Non, vraiment, j'ai pas peur au début parce qu'en fait, je me dis, bah, c'est bon, tu es passée par la case fausse couche. Et moi, ce que j'avais entendu à ce moment-là, c'était que mes copines ou les copines de mes copines avaient fait une fausse couche. Et personne ne m'avait dit, tu sais, tu peux en faire 5, 6, 7, 4, tu peux en refaire plusieurs finalement. Donc non, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, c'est bon, Sarah, tu es passée par la case fausse couche, tu as souffert, maintenant... tu es remise en sur pied et c'est bon, tu es enceinte et c'est ok, tu vas pouvoir avoir le deuxième enfant que tu rêvais d'avoir. Donc là, je me positionne comme ça, moi, à ce moment-là. Je suis très, très, très contente. Par contre, j'ai beaucoup de pudeur, beaucoup plus à pouvoir le dire autour de moi.
Parce que tu l'avais dit la fois d'avant.
Okay. Oui, vraiment, la fois d'avant, je l'ai dit tout de suite.
Est-ce que ça t'avait pas aidé finalement de l'avoir dit quand t'as fait ta fausse couche?
Oui et non, parce que finalement, alors quand je l'ai dit donc tout de suite à ma maman et à mon père et à mon frère, donc à mes très très proches finalement. Et après j'ai commencé à le dire à 2-3 amis, à quelques personnes de ma famille également. Et finalement, tu sais, quand tu fais une fausse couche, après ça reste mon avis, mais il y a beaucoup d'indélicatesse. Beaucoup de... vaut mieux que ça arrive maintenant qu'après, ça. Vaut mieux que tu sois pas allée plus loin dans ta grossesse. Regarde, tu as déjà un enfant, tu en auras d'autres. Beaucoup de phrases comme ça qui sont absolument vraies, mais complètement inappropriées pour quelqu'un qui est en train de perdre du sang et pour qui, finalement, qui est en pleine souffrance, vraiment, morale, parce que à cet instant-là, moi, ce que je voyais, c'était que je n'avais pas de deuxième enfant, mais que pourtant, il y avait quelque chose qui s'était mis au creux de moi et qu'on m'avait dit, c'est bon, madame, vous êtes enceinte et vos projections de vie vont aller.
Ouais.
Et en fait, beaucoup d'indélicatesse. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. Et donc là, pour cette troisième grossesse, je me suis dit, bon... cette fois-ci, donc mon mari, évidemment, mes parents et mon frère, et ça sera suffisant.
D'accord.
Ça sera suffisant, je voulais pas... je me suis dit, même si tu ne peux ne pas le dire du tout, aller le plus loin que tu puisses sans le dire.
Ah oui, d'accord. Ouais. Même après les 3 mois.
Complètement.
Ouais, d'accord.
Bah, t'iras. Tu diras pas. Et, euh, Et finalement, c'est comme ça que je voulais le faire.
Et alors, comment s'est passée cette troisième grossesse ?
Cette troisième grossesse, du coup, dans les premières semaines, tout se passe bien. Et pareil, donc un matin, je vais aux toilettes. Donc là, je suis enceinte de 9 semaines. Et donc là, je perds du sang. Mais tout de suite, je ne suis pas du tout en train de me dire que je repasse par ce que j'ai vécu il y a 2 mois. Je suis en train de me dire que je suis avec Google et je suis en train de regarder. Et je vois que certaines femmes perdent du sang, que ça peut être quelque chose qui peut arriver. Mais dans mon fond intérieur, je me dis qu'il faut quand même que j'aille consulter ouais. et en être persuadée. Et donc là, je dis à mon mari, je vais à la maternité parce que je veux être sûre que tout va bien. Et si ça ne va pas, ça peut paraître bête, mais je me suis dit, il faut qu'ils arrêtent les saignements parce que de toute façon, vu que je ne peux pas faire de fausse couche, il faut qu'ils arrêtent les saignements et qu'il faut que je me dépêche surtout d'y aller parce que pour moi, c'était quelque chose qui, à ce moment-là, pouvait être encore réversible. Et donc, j'ai foncé à la maternité. Il était, je crois, 7h30, 8h du matin.
Donc là, c'est toujours la même maternité
Toujours la même maternité, okay. Là où j'ai donné naissance à mon enfant. Là où j'ai fait ma première fausse couche. Donc, moi, c'est vrai qu'aveuglément, je me rends là-bas parce que j'ai encore confiance dans cette maternité, que c'est à proximité de la maison. Même s'il y en a d'autres qui sont encore plus près. Mais c'est vrai que spontanément, je vais là-bas.
Ouais.
Je vais là-bas et j'arrive, il est 8h du matin. Au début, il n'y a pas grand monde parce que c'est les urgences, donc c'est un peu toi et ta chance de savoir qui va être là, qui ne va pas être là. Il devait y avoir peut-être 2-3 femmes maximum qui sont en salle d'attente avec moi.
Ok.
Et donc moi, je me présente à l'infirmière qui est sur place. Je lui dis que mon dossier est déjà... à la maternité, que normalement ils me connaissent parce que j'ai déjà eu donc mon enfant, j'ai fait une fausse couche et je me suis inscrite pour cette troisième grossesse. Et donc je lui dis que je perds du sang depuis ce matin. Et là elle me dit, vous savez, de toute façon ça peut être classique, hein, les pertes de sang, ça peut arriver.
Donc plutôt rassurant à ce moment-là.
Complètement. Moi je suis trop contente à ce moment-là. Je me dis, voilà, c'est ce que j'ai lu. Ouais. J'ai lu que ça pouvait être quelque chose qui arrive. Donc à ce moment-là, j'envoie un message à mon mari, je m'en rappelle. Et je lui dis, tu vois, parce que lui, il me disait, arrête avec Internet, arrête de tout lire comme ça sur Internet, il y a tout et rien. Et je lui dis, tu vois, même la maternité me dit que ça peut être normal. Donc là, je m'assois et puis j'attends mon tour. Je me dis que vu que ça peut être normal, on va juste me faire un examen et puis voilà.
Et alors, comment ça se passe ?
Du coup, la journée se passe. Je suis arrivée à 8h. La journée se passe sans que... Donc, moi, je suis partie très rapidement de la maison. J'avais pas pris de protection hygiénique. Et je commençais quand même à perdre... Moi, quand je suis partie, je perdais un peu de sang. Mais pas beaucoup. Mais les heures se passent et le flux s'intensifie de sang. Je le dis quand même aux infirmières que je continue à perdre du sang. Et la même du matin me dit, je vous ai déjà répondu. D'accord.
Attends, mais là, ça fait combien d'heures ?
Donc là, quand je dis pour la première fois à la dame, ça doit faire 4-5 heures parce qu'on arrive sur les coups de midi 13h.
Oui.
Et je lui dis, mais je perds encore du sang, hein, madame. Elle me dit, oui, oui, oui. D'accord. Et moi, en fait, je reste comme ça dans la salle d'attente. Et puis, je vois aussi beaucoup de mamans arriver, enfin, beaucoup de femmes enceintes défiler. Et je me dis, elles sont peut-être plus en danger que moi. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je ne suis pas du tout en danger. Moi, pour moi, là, je ne suis pas du tout en train de faire une fausse couche. Hein,
ouais.
Vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas du tout alarmiste sur mon siège en train d'attendre. Et je me dis peut-être que ces femmes, il y a un problème dans leur grossesse avancée. C'est normal finalement qu'elles passent avant moi parce que moi, j'en suis pas une urgence tout de suite. Et par contre, arrivé 4h à peu près, donc 16h, mon mari m'appelle et me dit « Alors ?» Et je lui dis « J'attends. »
J'attends. T'es toujours en salle d'attente ?
Je suis toujours en salle d'attente sur mon petit banc et je suis pas prise. Et on me regarde pas et on me dit pas « C'est bientôt à vous, madame. » Non. Et je lui dis « écoute, j'attends. » Et il me dit « Non, t'attends plus. » Il me dit, ça fait presque... Ben non, ça faisait 8 heures que j'étais arrivée. Et il me dit, non, non, tu n'attends plus. Et maintenant, tu te lèves et tu vas demander à quiconque quand est-ce que tu passes. Sinon, c'est moi qui viens. Et lui, c'est quelque chose qu'il fait souvent, en fait. Il vient pour essayer un peu de pousser les choses. Parce que moi, j'aurais plus tendance à attendre mon tour et d'attendre comme ça. Et je lui dis, non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Je vais me lever et je vais demander ce qu'il en est. Je ne le fais pas tout de suite. J'ose demander, parce que pour moi, c'était vraiment du courage que de me lever, demander à cette femme à qui... En fait, là, je me suis dit, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je ne vais pas aller redemander à cette même personne. Donc là, je vais vers une femme qui a une blouse rose. Donc je me dis que c'est une sage-femme et que peut-être qu'en fait, finalement, peut-être elle va même me prendre comme ça tout de suite. Et là, il est 18h15. Là, il est 18h15, donc ça fait plus de 10 heures que je suis arrivée à la maternité. Et je lui dis, écoutez, madame, en fait, je suis arrivée ce matin... Et j'ai oublié de prendre des serviettes hygiéniques. Et là, je sens que je la saoule. Là, je sens que vraiment, en fait, je viens la déranger dans son service. Je ne sais pas ce qu'elle était en train de faire, hein, mais je sens que je la dérange. Et donc, moi, je m'excuse. Vraiment, je m'excuse à ce moment-là. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez me donner une serviette hygiénique, une protection, ou alors est-ce que même je pourrais aller m'allonger dans l'une des salles, parce que je voyais qu'il y en avait une qui était dispo. Et je lui dis, parce que là, je commence vraiment à perdre du sang et je suis fatiguée. Et j'avais pas mangé parce que je savais pas trop ce qu'il en était, tu vois. Et là, vraiment, elle me regarde sans vraiment avoir de considération pour moi. Et elle me dit, écoutez, madame, vous voyez où vous êtes ? Je dis, oui. Elle me dit, vous êtes dans une maternité. Nos urgences, ce sont les femmes enceintes. Ce sont les femmes qui portent la vie en elles. Je dis, oui. Et elle me dit, vous pouvez pas être mon urgence, vous portez la mort. Oh. Et là, en fait, quand elle me dit ça, en fait, alors, du coup, là, moi, forcément, je me replonge avec mes émotions d'il y a 2 ans. Et en fait, forcément, je pleure tout de suite. Mais tu sais, alors pas de tristesse, parce qu'en fait, je comprends pas les mots qu'elle vient me dire, parce que pour moi, c'est pas encore équivalent dans ma tête au fait que j'ai fait une fausse, que je suis en train de faire une fausse couche. C'est que en fait je me sens très honteuse d'avoir demandé, d'avoir perturbé en fait l'équipe médicale, et en fait donc je me mets à pleurer comme ça toute seule et sans considération. Elle est partie, elle a continué, elle a vaqué à ses occupations, et moi je me suis retrouvée bête en fait, tu sais, finalement face aux autres mamans qui étaient dans la salle et qui me regardaient, qui, elles, je pense, avaient très bien compris la situation. Et moi, j'étais dans une espèce de déni horrible. Et en fait, il a fallu que je m'assoie, vraiment physiquement, que je m'assoie, que je continue à pleurer, et que je me dise, ok, en fait, j'ai compris. J'ai compris. Et là, je comprends que je suis en train de faire donc une deuxième fausse couche, et qu'en fait, elle m'a dit que j'étais en train de porter la mort. Et
la violence,
c'est hyper violent en fait comme terme, parce qu'en fait surtout pour en fait le déni dans lequel j'étais de pouvoir me dire que je pouvais déjà en faire une deuxième. Et puis j'étais très fatiguée parce que ça faisait donc plus de 10 heures que j'étais dans les couloirs de cette maternité, et en plus elle vient de me dire que je portais la mort, donc j'étais responsable de pouvoir avoir donné la mort à quelqu'un. Et là, il y a une tempête en fait émotionnelle qui se passe en moi. Donc j'appelle mon mari, je lui dis ce qui se passe. Lui, je pense qu'il savait, mais que en fait, il avait aussi besoin que ça soit un peu le corps médical qui me prenne en charge et qui puisse m'expliquer un peu ce qui se passe. Et il me dit, je suis en route, Sarah, de toute façon, j'arrive. Et je lui dis, non, mais de toute façon, apparemment, il n'y a plus rien à faire pour moi. Faut que je m'en aille. Je suis pas une priorité, je porte pas la vie, j'ai plus de ventre, j'ai plus de... Voilà, donc en fait, là, je me sens même plus vidée, en fait. J'ai pas spécialement le mot, mais je me sens complètement anéantie par les propos de cette femme. Et mon mari arrive très, très rapidement. Mais il est quand même 20h. Il est 20h et il me dit, bon, bah, on rentre. Et je lui dis, mais c'est bizarre. C'est bizarre que ce qui est en train de se passer. Et là, on va nous appeler quelques minutes après pour enfin en fait passer, tu vois. Moi, j'ai fait mon entrée, mon ticket d'entrée, il était 8h.
Ça fait 12 heures que tu es sur place.
Et à 8h20, 8h30, 20h30, on me dit Madame Intel, c'est à vous. Incroyable. Et en fait, je me dis, ok, mais en fait, moi, j'y vais, mais... Bon, alors, déjà, j'ai pas encore séché mes larmes parce que je suis hyper sonnée par les propos de cette femme. Et je me dis, je veux plus la revoir. Je veux plus la revoir, je veux pas qu'elle pose une main sur moi. Et donc, je la reverrai pas, cette femme. Je la reverrai pas, elle rentrera pas dans la salle où je vais rentrer. Et finalement, je me retrouve avec ce monsieur qui m'avait dit, vous avez fait une fausse couche la première fois.
D'accord.
Je me retrouve avec ce gynéco. Et je me dis, j'ai pas les épaules. Et je lui dis, j'ai pas les épaules pour que vous ayez autant de distance envers moi que vous n'en avez eu il y a 3 mois. Je lui dis, j'ai pas les épaules, j'ai plus le courage, je suis fatiguée. Et évidemment, je m'effondre. Et lui, il comprend pas parce que évidemment il se souvient pas de moi, ouais. Et c'est normal. Mais moi, je me souviens de lui parce que moi, je l'ai vu qu'une fois et c'était pour ça. Et il me dit, de toute façon, je vais vous ausculter. Moi, je suis là pour ça, je suis pas là pour autre chose. Et donc, il m'ausculte et me dit qu'effectivement, j'ai fait une deuxième fausse couche. Et là, je lui dis, mais c'est pas possible. Vraiment. Et il me dit, madame, je connais mon métier, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Vous avez fait une deuxième fausse couche. Je lui dis, d'accord. Ça, je veux bien le croire, mais ce n'est pas possible que j'en fasse une deuxième, c'est que j'ai un problème. Et en fait, dans mon fond intérieur, tout de suite, je reprends un peu d'énergie ou de conscience ou de bon sens, j'en sais rien. Et je lui dis, je sais qu'il y a un problème, je sais que je dois avoir quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je ne veux pas lâcher ça. Et il me dit, alors, nous... On a un protocole qui est extrêmement cadré. Je suis d'accord. Et là, il me dit, nous, il faut attendre que vous fassiez 3 fausses couches. Et là, on commencera à faire des examens qui seront complémentaires, approfondis, pour savoir si vous avez un problème quelconque qui viendrait finalement favoriser un terrain à la fausse couche. Et moi, je lui dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas déjà me renvoyer chez moi comme ça en l'état et en plus me dire que je peux tenter d'avoir un deuxième enfant, par contre peut-être qu'il y aura un problème, que je repasserai par la case que je viens de vivre aujourd'hui et là peut-être que vous ferez des examens qui iront dans un sens ou dans un autre mais et donc en fait je dis moi je bougerai pas et là en fait je me mets en... Je me dis, je bougerai pas. En fait, je me dis, à ce moment-là, vraiment, je me dis, j'ai tout perdu. On m'a réduite vraiment à une moins que rien aujourd'hui. Vraiment, j'ai ce sentiment à ce moment-là de me dire, je n'ai pas été respectée. On m'a laissé attendre 12 heures sur une chaise en train de saigner. Aujourd'hui, s'il faut que je reste 12 heures sur votre fauteuil allongé, je le ferai dans le sens inverse, du coup. Ouais. Et il me dit, donc là, ça va prendre très 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 longtemps. Et finalement, donc un autre médecin intervient parce que lui, je sens que de toute façon, il ne voudra rien faire de moi. Et je pense qu'il appelle quelqu'un. Et donc là, j'ai une femme qui vient et qui m'explique leur protocole à nouveau, mais qui me l'explique de façon à plutôt me dire, tout va bien se passer, peut-être que vous n'en ferez pas une troisième. Mais en fait, je m'en fiche à ce moment-là, vraiment.
T'as pas forcément envie de prendre le risque.
Non, je veux pas parce qu'en plus, c'est quelque chose, si tu veux, que je sens à ce moment-là qu'il y a un problème. Je sens que vraiment, ça servira à rien pour moi de refaire une troisième tentative. Je sais ce qu'elle donnera. Et donc, ça prend aussi le temps que ça prend. Mais finalement, ils vont décider de me faire certains examens. Alors, le nom, je t'avoue que je m'en souviens plus. Mais je reste... on va partir de l'hôpital à 4h du matin.
Ah.
On va partir à 4h du matin. Mais j'en ressortirai avec des réponses. Donc, effectivement, j'avais bien quelque chose sur l'ovaire qui empêchait tout simplement les grossesses de pouvoir tenir. Donc, j'avais beaucoup de polypes. Et en fait, il fallait donc une simple, entre guillemets, intervention chirurgicale pour nettoyer l'ovaire et accueillir éventuellement une nouvelle grossesse.
D'accord.
Voilà. Et en fait, moi, quand je pars, du coup, pendant un petit moment, j'occulte ce qui vient de se passer et je me dis, tu vois, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et je repars pas triste à ce moment-là. Il va me falloir un peu de temps pour l'être parce qu'en fait, je repars satisfaite au début de me dire j'ai eu la réponse à mes questions. Et je sais que si je fais cette intervention, ça sera bien, ça sera bon.
Donc là, tu repars avec une intervention programmée quelques jours après ?
Alors non, pas quelques jours après, parce qu'eux me disent qu'ils sont complètement bookés. D'accord. Et que de toute façon, ça sera environ 9 semaines de délai pour avoir un rendez-vous seulement avec le chirurgien d'obstétrique pour juste un rendez-vous de prise de connaissance. Et je rigole en fait, moi, quand elle me dit ça. Et dans la voiture, mon mari me dit, mais pourquoi tu t'es mise à rire comme ça ? Je lui dis, mais parce qu'ils peuvent s'imaginer une seule seconde que je me ferai opérer là-bas. C'était impensable que je puisse ravoir quelque intervention que ce soit ou en fait je me voyais plus jamais retourner dans cette maternité. Pour moi, elle a disparu de ma tête et en fait je lui ai dit non, mais tout simplement je vais aller dans une autre maternité, je vais rencontrer un autre chirurgien et ce chirurgien là m'opérera et voilà. Et finalement, j'ai eu rendez-vous dans la semaine avec un chirurgien et la semaine d'après, l'intervention était programmée.
D'accord. Ah oui,
bah. Et donc, c'est allé très très rapidement. En 2 semaines, j'étais opérée. Et de l'autre côté, on me disait, en 9 semaines, vous pouvez avoir une prise de connaissance avec le chirurgien. Et en fait, quand j'ai été dans ce tourbillon émotionnel de me dire ok, donc j'ai des polypes, c'est pas grave, c'est juste un peu embêtant pour accueillir une nouvelle grossesse, voilà, je suis dans cette émotion là moi à ce moment là j'occulte pendant pas mal de temps le fait que j'ai fait une deuxième fausse couche,
que je l'ai très très mal assimilé,
c'est ça. Et mon corps en fait ne s'en souvient pas à ce moment là de cette attente pendant 12 heures sur cette chaise en train de saigner, à jeter mon jean quand je suis rentrée, parce qu'en fait je me suis dit que je le récupérerais pas avec autant de sang. Et les mots de cette femme, donc pendant un moment, je vais complètement les mettre de côté dans ma tête et je vais me faire opérer. Je vais avoir mon réveil et je vais avoir cet entretien avec mon chirurgien qui va me dire, voilà Sarah, aujourd'hui j'ai fait tous les examens possibles, l'utérus, vos ovaires, tout est propre. Donc aujourd'hui, si la volonté d'avoir un deuxième enfant est toujours d'actualité, vous pouvez y aller. Vous avez mon feu vert, vous attendez un cycle de règles pour... Et après, vous mettez en route quand bon vous semble. D'accord. Et donc, je suis tombée un mois après enceinte.
Ok.
Voilà. Et à ce moment-là, on est en mars 2020... Et on nous annonce le confinement. Et pour moi, là, en fait, c'est l'effondrement. En fait, je prends l'annonce à contre-pied complètement. C'est qu'en fait, je suis la plus heureuse du monde, mais j'ai une terreur qui s'installe en moi qui est sans précédent. C'est-à-dire que, en fait, mon corps se rappelle qu'il a fait une deuxième fausse couche et mon corps se rappelle à quel point j'ai porté la mort.
Ouais, t'as toujours cette phrase qui... Mais bien sûr.
Et en fait, pour moi... c'est paralysant. Et en même temps que la France se paralyse du coup parce que tout ferme et qu'on est confiné totalement à la maison, et ben en fait là je vais rentrer dans un premier trimestre de grossesse qui va être l'enfer pour mon mari, parce que je vais être tétanisée, mais vraiment. J'ai fait donc en fait j'habite au-dessus d'un laboratoire d'analyse de sang. Et en fait, toutes les 48 heures, arbitrairement, je descendais au laboratoire et je faisais ma prise de sang de bêta-HCG pour savoir si ça augmentait. Parce qu'en fait, je ne dormais pas, je ne dormais plus. Il fallait que je sache si cette grossesse, en fait, allait pouvoir se créer ou si j'étais en train de créer la mort, en fait. Parce qu'en fait, cette femme m'a clairement dit que je n'arrivais pas à créer la vie, mais que je n'arrivais qu'à créer la mort. Et du coup, j'avais besoin de savoir si c'était vraiment vrai. Et en fait, il a fallu que je passe le cap des 8-9 semaines, qui était pour moi le premier palier dans ma tête à me dire, je suis allée plus loin que les deux fois d'avant. Sauf que 9 semaines, c'est super long quand tu fais des analyses de sang toutes les 48 heures et que tous les matins, quand tu vas faire pipi, il n'y a pas une fois où tu ne te mets pas à pleurer en te disant le moment où tu vas t'essuyer, comment ça va être ? Est-ce que ça va être rempli de sang ou pas encore ? Toutes les fois où tu vas aux toilettes, finalement, tu te dis qu'est-ce qui va se passer ? Dès que, n'importe, hein, tu as une petite perte, tu te dis ok, ne bouge plus, ne fais rien, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça, ça a été franchement très très compliqué le premier trimestre. Donc je suis arrivée à mon premier trimestre de grossesse. J'ai pris donc contact avec un gynécologue très très rapidement quand même dans la grossesse, vers 10 semaines je crois. Et lui m'a dit que c'était trop tôt pour qu'on se rencontre. Et je lui ai dit non, c'est pas du tout trop tôt. J'étais vraiment tétanisée. Ouais, j'avais besoin que tous les jours on me fasse une écho pour me dire c'est toujours là, c'est toujours là, tout va bien. Et en fait, je me suis jamais calmée tant que Joseph n'était pas dans mes bras.
Et donc pendant les 9 mois,
jamais j'ai jamais cessé d'avoir peur un jour. Et du coup, ça a rendu cette grossesse hyper particulière. Et du coup, ma relation avec mon fils hyper particulière. Parce qu'en fait, je pensais ne jamais pouvoir l'avoir. Jamais. Parce qu'en fait, on m'a clairement dit que j'étais réduite à pouvoir créer la mort. Et en fait, même si je sentais mon fils bouger pendant la grossesse, ça voulait rien dire. Vraiment, j'avais pas l'émotion de me dire, tu vois, il est en vie, il est dans ton ventre et ça va. Non, j'avais besoin en fait de soit tenir mon enfant, soit de ne pas en avoir, mais en fait, j'avais pas cet entre-deux de me dire, tu vis une grossesse tout simplement, et puis et il a fallu que j'accouche pour me rendre compte que finalement, j'avais su pouvoir redonner la vie à quelqu'un et ne pas rester dans ce schéma dans lequel cette femme m'a dit que j'étais. Et du coup, c'était hyper particulier, vraiment. Au-delà du fait de tomber enceinte pendant le premier confinement, j'ai accouché pendant le deuxième confinement. Oui. Donc ça, c'était super particulier. Mais cette grossesse-là, avec le recul, ni je l'ai aimée, ni je l'ai détestée. C'est juste qu'en fait, j'ai été absente de mon corps parce qu'en fait, j'étais complètement médicalisée. Il fallait qu'on me dise toutes les 48 heures, parce que j'ai bien compris que toutes les 24 heures, c'était pas possible, même si je l'aurais aimée. Toutes les 48 heures qu'on me dise... ça va, tout va bien, tout a continué et ça prend forme et ça prend le sens que ça doit prendre.
Ouais.
Donc voilà.
Et comment s'est passé l'accouchement, la rencontre ? Super. Ça a dû être très fort justement.
Ouais. Ça a été donc on est quand même pendant le deuxième confinement, donc je suis seule. Mon mari n'a pas le droit de rentrer au début, il a le droit de rentrer qu'à la fin au moment de la poussée. Donc je suis seule en fait pour vivre le travail. Et finalement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça prend à peu près 4-5 heures de contraction. Mais en fait, à ce moment-là, je suis connectée avec mon corps. En fait, là, je suis en train de me dire, ok, tu vois, là, ce que tu es en train de faire, c'est le schéma inverse de ce qui s'est passé. Là, tu vas vers quelque chose de tellement bon. Et en fait, donc je pleure énormément, mais en fait, je pleure pas du tout de douleur. C'est qu'en fait, je pleure parce qu'en fait, je suis en train de comprendre que l'issue va être bonne. Et en fait, du coup, j'ai beaucoup d'émotions et j'en ai beaucoup parlé au personnel médical qui était dans cette maternité dans laquelle j'ai accouché. Donc, elles m'ont aussi beaucoup écoutée et beaucoup aussi expliqué ce que je pouvais être en train de ressentir par rapport à ce que j'avais pu ressentir avant. Et du coup, ça se passe vraiment très bien, même si je suis seule, même si je suis avec le masque et que j'ai chaud et que j'ai peur et que, en fait, ça va.
Mais t'es soutenue là par le personnel soignant.
Et les femmes sont incroyables. Ouais. Les femmes me parlent beaucoup. Et même si j'étais pas prête à accoucher tout de suite, parce que pareil que pour mon premier enfant, j'ai accouché à 37 semaines et que c'est arrivé très vite. Mais j'étais tellement soutenue par ces femmes que, en fait... je sentais pour une fois que ce que j'allais faire était bien.
Ouais.
Et que c'était pas aussi sombre qu'on m'avait dit en fait avant. Et finalement, au moment de la pause de la péridurale, on m'a dit, maintenant vous pouvez appeler votre mari Donc il pourra venir à ce moment-là, d'ici 2-3 heures, il peut venir. Donc il est arrivé, mon mari ne connaissait pas le sexe de l'enfant. Il n'avait pas voulu connaître le sexe du bébé.
Et toi tu le savais ?
Oui, moi je le savais parce que vraiment je ne pouvais pas garder... Enfin, je voulais savoir absolument. Et donc en fait, il y avait cette ambiance en fait dans la salle d'accouchement. Où moi je savais ce qui... Même si j'y pensais pas spécialement, mais lui en fait, tu sais, il y avait cette ambiance de se dire, bah, il va découvrir son deuxième enfant, il sait pas ce que c'est, si c'est un petit garçon, une petite fille. Et moi j'avais juste l'excitation de pouvoir enfin tenir cet enfant que j'ai tellement en fait voulu et qu'on m'a tellement dit que c'était pas possible. Et donc en fait ça va arriver très vite, ça va arriver je crois, alors au moment de la poussée ça a duré 1 minute 30, vraiment ça a été d'une rapidité folle et en fait c'était génial et en fait à ce moment là en fait donc on me met bébé sur moi et je sais pas pourquoi je dis à mon mari prends-la, mais c'est un garçon, mais c'est un garçon, alors mon mari il me dit oh mais c'est une fille. Et j'ai dit, mais non, c'est un garçon. Et en fait, je sais pas, si tu veux, je suis complètement dans l'euphorie. Et en fait, je vois toutes ces femmes en fait, autour de moi. Et en fait, je lui dis, prends-la. Et puis, je vois la tête de mon mari qui me dit, ah bon ? Et en fait, voilà, ce moment-là, en fait, j'ai l'impression que la boucle se boucle. Et qu'en fait, j'ai ma revanche. J'ai ma revanche. C'est ce que je pense hein, à ce moment-là. Je le saurai après que non. Mais à ce moment-là, je me dis, voilà. Bah, j'ai su en fait donner la vie.
Ouais, j'ai, ça cicatrise un petit peu.
À ce moment-là, je me dis que j'ai réussi. Et que ces 8 mois qui viennent de passer ont été horribles en termes de charge mentale. Vraiment, la charge mentale à ce moment-là, elle est impressionnante. Ouais. Parce qu'en fait, je m'inflige toutes ces choses parce que. J'aurais pu laisser passer les jours et les semaines et faire des rendez-vous classiques. Mais moi, je ne pouvais pas, j'y arrivais pas. C'était vraiment... moralement, je me disais, je veux plus qu'on me dise que je porte la mort. C'était juste impensable pour moi que quelqu'un puisse me redire ça. C'était tellement d'une violence... mais folle.
Et tu n'as pas été consultée à une psychologue ?
Si. Oui. Après, du coup... J'ai très vite compris que j'avais un rapport avec la grossesse qui était devenue un peu entachée, qui s'était un peu noircie et qu'il fallait que je puisse un peu me réconcilier avec tout ça. Ça a pris beaucoup de temps et aujourd'hui, je peux pas te dire que c'est quelque chose sur lequel j'ai réussi à passer. Parce que j'ai fait donc presque un an de psychothérapie et que sur ça et sur plein d'autres choses qui ont après découlé d'angoisse de moi. Mais aujourd'hui, donc ça fait que quelques semaines que je le sais, que je ne suis pas complètement réconciliée avec ça parce que, donc je te le dis, c'est qu'on a un projet d'un bébé 3 depuis quelques semaines. Et qu'en fait, depuis que... Alors au début, mon mari, c'était pas question pour lui d'avoir un bébé 3.
Ouais.
Et quand il m'a dit, écoute Sarah, c'est ok pour un bébé 3, je pense que je pourrais me projeter dans cette vie peut-être à 5. Et ben en fait, je me suis effondrée.
Ah ouais.
Je me suis effondrée et en fait, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, Sarah, ne me dis pas que t'as... Et là, je m'en veux à moi-même de me dire, t'as pas cicatrisé, t'es pas passée à autre chose. Et en fait, je suis terrorisée à l'idée de me dire, j'ai trop peur en fait de pouvoir, en fait, les mots de cette femme, ils ont été d'une violence, et en fait, c'est l'intonation, son regard, et en fait, cette distance qu'elle a fait entre elle et moi, et ce à quoi elle m'a réduite aussi. Donc, aujourd'hui, mon but, ça serait vraiment de pouvoir accueillir bébé 3, à l'inverse de comment j'ai accueilli mon deuxième enfant, Joseph. De pouvoir retourner sur une grossesse comme j'ai eu celle de mon premier enfant, c'est-à-dire légère, fluide et un peu bercée d'imprévus, mais pas forcément tout dans la négativité.
Alors, il y avait Aurélia qui était passée dans le podcast sur les violences obstétricales et qui, elle, avait écrit à la personne, ou en tout cas à la maternité.
D'accord.
Et ça avait pas mal aidé.
C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée que je puisse écrire à cette femme dont je ne connais pas le nom, hein, forcément.
Oui.
Mais la maternité, je la connais et je connais l'adresse. Et c'est vrai que ça pourrait être... moi qui adore écrire, justement. J'adore écrire. Et je pense que oui, ça pourrait être une issue, peut-être.
Et alors, ta relation avec ton deuxième petit garçon, tu disais que ça avait... Ça a été assez particulière aussi.
Ouais. C'est Joseph, c'est un peu comme mon miracle, parce que j'étais tellement convaincue de ne pas pouvoir finalement l'avoir que aujourd'hui on l'a pas mis en crèche tout de suite. Alors on n'a pas pu, et en même temps, si on avait pu, je sais pas si je l'aurais aussi fait. J'ai changé de vie, j'ai changé de travail, je me suis mise à mon compte. Je l'ai gardé tous les jours il était avec moi, et on a eu une espèce de fusion qui fait qu'aujourd'hui le terme maman poule il est exacerbé finalement, parce que c'est vraiment mon miracle, et j'ai très peur de tout avec lui. Alors j'ai très peur de tout avec mon aîné, hein, mais avec Joseph c'est tellement... c'est mon miracle.
Oui. Vraiment, t'as voulu rattraper cette connexion que vous n'avez pas eue forcément pendant la grossesse.
Je sais que je ne l'ai pas eue et que je m'en veux, évidemment, mais je ne pouvais pas faire différemment. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, le lien qu'on a entre nous, il est juste incroyable. Et lui-même, il est très, très proche de moi. Il me réclame énormément.
Mmh.
Et donc, on a une relation qui est très, très particulière. Et je pense qu'elle va perdurer quand il va grandir, ça se transformera différemment. Mais il y aura toujours quelque chose entre lui et moi qui fera que moi déjà je le regarderai d'une certaine manière, parce que je suis trop reconnaissante finalement qu'il ait pu être là.
Mmh.
Et je sais à quel point il aurait pu ne pas l'être finalement si j'avais écouté ce médecin qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse 3 fausses couches pour pouvoir en fait avoir des examens. Bah, Joseph, ça aurait été le 3e dans ma tête, c'est ce que je me dis. Et il en était hors de question. Mmh. Et finalement, de le voir comme ça grandir, aujourd'hui, il a 19 mois. Et en fait, j'ai une passion pour mon fils. Alors, j'ai une passion folle pour mes fils. Hein. J'adore mes fils. Mais c'est vrai que les deux, on a une relation qui est particulière. J'ai une relation particulière avec mon aîné parce que c'est mon aîné et que c'est lui qui m'a fait devenir maman. Et avec Joseph, parce que c'est lui qui m'a réconciliée aussi avec le fait que je pouvais le rester.
Oui.
Et alors que vraiment, je pensais ne plus l'être avec tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on est comme ça. Et ça me prend dans mon ventre. Et voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Tout. Non, c'est vrai que la maternité, ça m'a fait apprendre beaucoup. Beaucoup, beaucoup sur moi, sur ce que je pouvais être, sur des traits de ma personnalité que je ne pensais pas pouvoir avoir. Par exemple, l'écoute, beaucoup l'écoute. La patience, plus. Vraiment la patience et cet amour, en fait, qui est viscéral pour mes enfants. C'est... Vraiment, je pourrais pas te l'expliquer parce que ce lien que j'ai avec mes enfants, il est incroyable. Et en fait, ça m'a fait voir une vie qui est complètement différente que celle que j'ai pu connaître quand j'étais en couple ou alors jeune fille sans conjoint. Et aujourd'hui, finalement, toute ma vie est rythmée par la maternité. Mais voir des fois plus. Mmh. C'est-à-dire à s'en oublier du côté féminin. Ou couple, mais aujourd'hui la maternité, je me suis réconciliée à me dire que c'était ok, c'était cette vie que je voulais.
Ouais.
Voilà, donc je me retrouve en tant que femme parce que je suis maman. Je me verrai pas en tant que femme sans être maman. Voilà, aujourd'hui, hein, moi c'est comme ça que je le vois, mais la maternité, ça prend toute la place de ma vie. Tout est le travail que je fais aujourd'hui dans l'influence ou le travail que je fais dans la création de mes bijoux est rythmé par la maternité. Mes bijoux vont avoir un sens par rapport à mes enfants. Quand Joseph est né, par exemple, J'ai créé une collection de bijoux quelques jours après. Et le bijou phare, entre guillemets, de cette collection, c'était les arcs-en-ciel. Mmh. Et j'ai créé un collier qui s'appelle Joseph, qui est en fait avec un pendentif avec un battement de cœur. Et voilà, donc même mon travail est rythmé par la maternité. L'influence va être rythmée aussi par la maternité, parce que c'est vraiment aujourd'hui, je parle aux gens qui m'écoutent à travers la maternité, parce que je ne leur parle pas spécialement de mode, de choses comme ça, mais vraiment, c'est la maternité.
Oui, parce que toi, tu étais juriste avant.
C'est ça.
Oui, donc rien à voir.
Il n'y a rien à voir du tout. Il y a 5 ans, j'étais encore dans mon petit cabinet parisien d'avocat. J'avais une vie pour moi qui était complètement dessinée et tracée, et c'était celle-ci à quoi j'étais destinée. J'avais fait mes études et je pensais avoir ce schéma-là de vie, et finalement pas du tout. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse dans cette vie que je trouve beaucoup plus légère, sans contrainte, entre guillemets. Et en fait, c'est la maternité vraiment qui me porte dans mes projets pro. Et c'est pas l'inverse. Vraiment, c'est la maternité qui va me porter dans tout ça. Et voilà, c'est comme ça, je pense, que je vois.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
C'est de vivre à 100 à l'heure. Mmh. Ouais. Complètement à 100 à l'heure. De ne jamais m'arrêter. Ouais, c'est ça.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
C'est le parc de l'école, qui est en bas de la maison, parce que c'est hyper sympa pour moi et en même temps pour les enfants, parce que du coup, ils ont tous leurs jeux. Et moi, j'ai le côté avec tous les bancs, et c'est souvent là que finalement je prends mon portable et que je travaille et que mon mari est en train de jouer avec les garçons. C'est juste en bas de la maison, c'est génial.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, rien que pour moi, je veux absolument commencer la prise de soins. Vraiment pour moi, j'ai besoin de commencer certaines choses pour moi. Donc là, je me suis dit que ça devait passer par... j'ai besoin de faire des drainages lymphatiques parce que je souffre énormément de rétention d'eau, de choses comme ça. Donc c'est vraiment prendre soin de moi physiquement, parce que ça se répercutera sur mon mental, évidemment. Et à court terme, avec les enfants et mon mari, on va partir là dans quelques semaines dans un camping. Et donc, c'est une expérience inédite parce qu'on n'est jamais parti en camping. Et je pense que ça va être génial. Donc là, à court terme, c'est ça, et j'ai vraiment hâte.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie maternité.